Je prie pour que Dieu puisse se manifester à vos cœurs, Jésus puisse se manifester à vos cœurs et que vous puissiez le voir avec votre cœur et votre esprit. C'est ça le plus important. Il est au milieu de nous et souvent j'aime bien dire la chaise la plus proche de moi, il est là, là. Je le veux près de moi, parce que j'aime le Seigneur Jésus. Donc je suis jeune pasteur, comme Michael, on est des jeunes pasteurs, on a été formés à Toulouse avec Gérard Gault ensemble. Ça a été une joie pour nous, Stéphanie et moi-même, de voir Laure et Michael arriver sur Toulouse. On était là juste un peu avant eux, et donc on a pu partager des bons moments. Et puis ce matin, vous êtes là, la preuve qu'à Moissac, il y a une église où le Seigneur agit et qui est en bonne santé. Merci Seigneur. On prie pour que voilà, ce local devienne trop petit et qu'encore des personnes, des âmes puissent se rajouter. Est-ce que c'est votre vision? Ou est-ce que vous êtes attaché au mur, aux chaises, au bois, etc. On veut, au-delà d'être attaché, bien sûr, à ce qui fait un petit peu notre histoire, ce qui marque notre histoire, être attaché au Seigneur Jésus et toujours voir à ce que le Seigneur puisse nous faire développer son œuvre avec lui, être ouvrier avec lui et voir de belles choses se passer, surtout des âmes être sauvées. Le Seigneur fait son œuvre. Et il y a une parole dans les Écritures qui ne peut pas être enlevée. On ne peut rien enlever de la Bible. Dès qu'on enlève quelque chose, c'est plus la Bible. Elle est soit complète, soit rien. On accepte tout ou rien avec le Seigneur. Et il y a une parole qui dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. J'espère qu'à Moissac, et je crois qu'à Moissac, Dieu a déjà trouvé des personnes qu'il a choisies pour être des ouvriers dans sa moisson et des ouvriers particuliers dans un domaine particulier. Il y a plein de choses différentes qu'on peut faire. Mais vraiment, préparez-vous et priez parce que peut-être que vous ne le savez pas. Tiens, je vais le dire. Tu ne le sais pas, mais le Seigneur veut que tu sois une ouvrière, un ouvrier dans sa moisson. Peut-être que quelqu'un dit non, pas moi, je suis disqualifié. Hier, avec les jeunes, j'ai bien montré, j'ai prouvé qu'avec ma vie, le Seigneur avait fait de moi un serviteur, pas parfait, mais il m'a choisi. Alors s'il m'a choisi à moi, il peut vous choisir à vous pour faire quelque chose, hein. C'est sûr. Si vous connaissiez ma vie, vous pourriez que dire, oui, c'est sûr, le Seigneur fait des choses extraordinaires, il redresse ce qui est tordu, ce qui est tortueux, pour en faire quelque chose de droit. Merci Seigneur. On prie encore? Demande au Seigneur sa grâce. Notre Père, on ne se lasse pas de te réclamer ta grâce, on ne se lasse pas aussi de te dire merci d'avance et déjà pour tout ce que tu nous as accordé. Merci parce que tu t'es montré fidèle, parce que tu nous as touchés, tu nous as déjà parlé pour la plupart. Tu es celui qui a sauvé notre vie, qui nous a sortis de la misère, qui nous a montré une vie différente. Tu nous as fait cette proposition de choisir, Seigneur. Tu nous as montré qu'il y avait un choix à faire et tu nous as aidé à faire le bon choix en nous parlant de ton amour, en nous montrant ton amour. Seigneur, au travers de la croix, on réalise que tu as fait le plus dur, ce qui nous était impossible, payer pour nos péchés, expier nos fautes. Personne ne pouvait le faire et ne peut encore le faire aujourd'hui. Tu l'as fait pour nous. Et ce que tu nous demandes juste aujourd'hui, c'est de croire, de recevoir et d'obéir, de te faire confiance. Parce que tu n'es pas un Dieu comme un mauvais maître, un maître dur, tu es un bon maître. Un maître qui prend soin des siens, de ses serviteurs, de ses enfants. Un maître qui nous appelle même ses enfants, Seigneur. Qui veut être un père pour nous. Un maître qui veut être notre berger et qui nous considère comme des brebis desquelles il veut prendre soin. Merci encore de continuer ce travail en nous. Tu as déjà commencé des choses et tu veux continuer ce travail pour nous perfectionner, pour nous rendre utiles dans ta maison. C'est là ce que je veux partager ce matin, ce que j'ai sur mon cœur, Seigneur. Merci de m'aider à transmettre ce que tu as mis sur mon cœur. Que ton nom soit béni et que tu sois glorifié en tout cela. Amen. Amen. Merci Jésus. Dans la Bible, vous vous souvenez de ce texte, on va pas ouvrir tout de suite, de ce texte qui dit dans Genèse 2, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Vous vous souvenez un peu de ça? C'est la Genèse, c'est-à-dire le début de la Bible. Au commencement, Dieu créa la terre, et puis juste après, la nature, et juste après, l'homme. Dieu fait l'homme, il prend de la poussière, il prend de l'argile, il prend de la terre, et il va créer, littéralement, il va façonner des êtres humains. D'abord un homme, il fallait bien commencer par un des deux, hein. C'est pas que les hommes sont meilleurs que les femmes, mais il a fait l'homme, et puis il lui a donné une aide semblable à lui, ni en dessous, ni en dessus, au-dessus, semblable à lui, il l'a pris du côté, pas de la tête ou du pied, il l'a pris du côté, pour eh bien qu'il forme un couple, il leur a donné le pouvoir de procréer, et il leur a dit multiplier sur toute la terre. Et aujourd'hui on multiplie, moi j'ai pris cela à la lettre, puisque j'ai 5 enfants, bientôt 6, donc on multiplie, et on avance, et le Seigneur fait grâce, et le Seigneur voulait prendre soin de l'homme, il l'a placé dans un endroit merveilleux, un jardin qu'il l'a appelé délice. Jardin d'Éden, jardin des délices. Et il l'a placé là, il lui a donné tout ce qu'il fallait. Il a fait de ce jardin un jardin merveilleux. Il avait la nourriture, il avait tout ce qu'il fallait. Pas de catastrophe climatique, etc. Tout était beau. Et voilà que l'ennemi de nos âmes, celui qui voulait détruire ce qui représente Dieu, détruire ce qui est créé par Dieu, le diable est venu pour séduire l'homme. Et il l'a fait d'abord au travers de la femme, parce que l'homme n'a pas veillé sur le jardin. Puisque le serpent était un animal des champs, le serpent, comme ça je remets un peu l'équilibre, on dit souvent c'est la faute des femmes, hein. Eh ben c'est un peu des deux, vous voyez. Et la femme a été séduite, elle en a donné de l'arbre, il y avait un arbre interdit, un arbre déconseillé, le Seigneur dit si tu fais ça, tu mourras, tu en prends, tu mourras. Et ils comprenaient pas, le diable leur a fait croire que c'était pas parce qu'ils deviendraient eux-mêmes des dieux. Et donc, séduits par le mensonge du diable, ils sont venus, ils ont goûté, et puis le péché est entré dans le monde. Et ce qui était beau, pur, parfait en Dieu, ça a été détruit, ça a été dénaturé. Et l'homme qui était fait pour louer, adorer Dieu, profiter de sa présence et de toutes ses grâces, de ses bénédictions, eh bien, il a été plongé dans la boue du péché, et voilà qu'il a été séparé de Dieu, à moins que, il se laisse sauver encore une fois par Dieu, parce que Dieu est amour, puisque Dieu a monté un plan de sauvetage, un plan de salut. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur le bois du calvaire et pour sauver tous ceux qui croiraient en ce sacrifice, tous ceux qui saisiraient la main tendue de Dieu en reconnaissant que Jésus est le bras qui est tendu de la part du haut du ciel, de la part de Dieu, et qui se laisseront tirer de la boue pour être restaurés, devenir des hommes sauvés par grâce, des hommes utiles entre les mains de Dieu encore pour faire ce que Dieu a prévu de faire avec eux. J'ai fait un résumé là, hein, vous avez vu, c'est un résumé condensé. Dieu a pris des hommes, de la poussière, de l'argile, il a façonné un être humain. Et il y a une image qui est souvent dans la Bible, c'est l'image d'un vase. Ok ? Dieu est comparé à un potier. Dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ésaïe, dans plein d'endroits, il est dit, et Dieu est comparé à un potier. Qui prend nos vies, et comme un potier qui fait un vase, Dieu prend nos vies et il veut façonner notre vie encore. Et même à un moment, il parle à un peuple particulier, au peuple d'Israël, et il dit, quand le potier prend de l'argile et qu'il fait son vase, si le vase ne réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il jette l'argile et dit, tant pis pour toi. Non, il recommence, parce que Dieu est patient. Et peut-être pour ta vie, tu peux dire, oui, c'est vrai, moi je suis un vase assez difficile à façonner et Dieu est obligé de s'y prendre à plusieurs fois. Il avait commencé un travail, puis d'un coup, le vase, eh bien, il se met à ne pas aller dans le bon sens comme Dieu le voudrait. Alors Dieu reprend une main dehors, il change l'extérieur, mais aussi une main dedans, et puis il façonne le vase. Et puis, autant Dieu agit dans notre cœur, à l'intérieur, ce qui est invisible, dans nos pensées, mais aussi dans notre manière de nous conduire, dans notre vie. Et Dieu voudrait diriger, conduire pour qu'on soit vraiment un chef-d'œuvre, une œuvre belle. Il est dit ailleurs, dans 1 Timothée ou 2 Timothée, il est dit, de Timothée de 20, dans une grande maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et ce matin, j'ai devant moi des vases, pas des cruches. Quoique, mais pas des cruches dans le sens du monde. On est des vases, on est créés pour être utile pour Dieu, pour être dans sa maison. Et si quelqu'un se conserve pur, il a un vase d'or, un vase d'honneur. Vous voulez être quoi? Un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? Je vous avais dit que je vous poserais des questions. On veut être des vases d'honneur. Peut-être que ce matin, quelqu'un peut dire non. Moi, si je devais représenter mon vase, si je devais un peu comparer ma vie à un vase, mon vase, il serait plutôt comme ça. Une seconde. Il n'est pas joli, merci. Personne n'osait le dire, qu'est-ce qu'il nous fait là? Peut-être que si vous deviez comparer votre vie, vous compareriez votre vie à un vase comme ça, vous savez, un vase tout taché. Un vase qui pourtant était blanc à la base, ou presque blanc, mais un vase voilà, qui est tout taché, tout pas beau, rien d'harmonieux. Alors quelqu'un vous dira, oui, mais c'est de l'abstrait. Oui, bon, j'y connais rien, c'est pas abstrait du tout, c'est juste pas beau. J'ai fait exprès. Et peut-être que quelqu'un, ce matin, est venu, que vous connaissiez Dieu ou pas, vous êtes un vase, mais si vous deviez bien comparer votre vie à un vase, vous diriez c'est plutôt ce vase-là. C'est pas un vase d'or. C'est pas un vase qu'on mettrait, dans lequel on mettrait les plus belles fleurs. C'est pas un vase qu'on mettrait au centre de la maison quand les invités rentrent. C'est un vase qu'on cacherait, dans lequel on mettrait peut-être les clés, vous savez, les choses qu'on vide les poches, un vide-poche. À la limite, un vide-poche, mais pas forcément quelque chose où on mettrait des choses précieuses. Et peut-être que ta vie, elle ressemble à ça. Que tu connaisses Dieu ou pas, parce qu'il y a des gens qui ont connu Dieu. Dieu a commencé une œuvre, mais au bout d'un moment, le potier n'a pas réussi à finir. Et puis le vase, l'argile a commencé à partir. Vous avez déjà vu un potier ? Ou une vidéo de potier, pour les jeunes, des fois on voit pas trop, mais au moins des vidéos, vous savez, il est là, vous prendrez à la maison, vous googliserez tout ça, et vous regarderez comment un potier prend, il met sa main dans l'argile avec de l'eau comme ça, et puis il façonne, et à un moment le vase, il y a le tour hein, qui est là, ça tourne, et à un moment le vase il part, faut recommencer. Ma force de persévérance, Dieu arrive, parce que Dieu veut amener à la perfection ce qu'il commence en nous, c'est écrit ça aussi. Et peut-être que ta vie, c'est un peu comme ce vase. Ce vase qui a été taché par des épreuves, pas forcément du péché. Peut-être des épreuves de la vie. Tu as été taché et dans ton cœur, il y a de l'amertume, il y a des taches qui viennent gâcher la beauté de ce que tu es parce que tu as vécu des épreuves, on t'a fait du mal et tu n'arrives pas à pardonner. Tu as fait du mal et tu n'arrives pas à te pardonner, ça peut être le cas aussi. Tu as été déçu, frustré, trahi, menti. Et peut-être que ta vie est comme ce vase, ce matin. Et je crois que c'est pas un hasard si on est là ce matin encore. Dieu veut nous parler, nous bénir. Et le diable, il veut tacher ta vie. Le diable, il veut gâcher et détruire tout ce qui rappelle ce que Dieu est. Tout ce qui est pur, parfait, beau, saint. Et Dieu veut tacher, veut gâcher, veut détruire. Et peut-être que si tu devais mettre un mot sur ta vie ce matin, tu dirais, moi, c'est vie gâchée. Moi, si on avait dû mettre un mot sur ma vie avant que je m'engage avec le Seigneur de tout mon cœur et que je mette ma vie en règle, j'aurais dit ma vie, le mot, c'est tortueux ou tordu. Pourtant, je m'appelle Jérémy Gadrois. C'est Mickaël qui m'y a fait repenser hier. Il m'a dit, en plus, tu t'appelles Gadrois. Et ben, moi, je suis tordu. J'étais tordu. Et le jour de mon appel, je l'ai dit aux jeunes hier, le jour de mon appel, le prédicateur, il a dit quelque chose qui m'a touché droit au cœur. Il me connaissait ni d'Ève ni d'Adam de nulle part, il venait du Canada, donc il pouvait pas savoir qui j'étais. Il a prié pour moi, il a dit « Dieu est celui qui redresse les vies tortueuses en vie droite ». Et c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre pour être sûr que ça venait de Dieu. Et moi, j'avais l'impression que ma vie était tordue. Et le Seigneur veut redresser les choses. Et le diable, lui, il veut tordre ce qui est droit. Et Dieu dit « Moi, je veux redresser ce qui est tordu ». Il y a un combat qui est là. On peut pas être neutre, dire, moi, je suis ni pour un, ni pour l'autre, je suis en dehors de tout ça, c'est leurs affaires. Dieu a dit qu'il y a un choix à faire. Soit se laisser redresser, soit se laisser tordre. Mais il y a toujours quelque chose. Et le cœur, d'ailleurs, la Bible dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Notre cœur est pas droit par nature. Parce qu'en fait, on se fait piéger. On se laisse séduire. Donc ça, c'est un petit peu la vie qu'on pourrait être. Et le diable, il va plus loin. Il veut pas juste que le vase soit taché, parce qu'à la limite, il peut être encore utile. Le diable, il va faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Un sac qu'on utilise pour quoi ? Pour faire les courses. Le diable, il veut nous séduire et nous faire oublier les choses importantes. Il veut nous distraire avec les Black Friday. Vous connaissez ? Oh, pardon. Il va nous plonger, vous savez, dans tout ce qui est course, la course aux meilleures choses. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter comme vêtements, la marque, ceci. C'est une des choses avec lesquelles le diable pourrait nous séduire. Vous êtes d'accord avec moi? Et tellement on est là, on dit, waouh, ouais, c'est le Black Friday, il faut que j'y aille, il faut que j'aille acheter. Vous avez vu les foules qui vont sur les routes, c'est hallucinant. Alors, c'est pas que les courses en soi, ou même acheter des choses, ou faire. J'espère que si vous avez fait le Black Friday hier, vous avez fait des bonnes affaires. Tant mieux. C'est pas un péché en soi. Mais des fois, le diable veut nous faire oublier les choses importantes. Et il y en a, ils sont tellement omnibulés par la nouvelle veste, le nouveau vêtement, la marque qu'ils vont porter, le nouvel ordinateur, les nouvelles choses, qu'il va oublier l'essentiel, il va oublier les choses de Dieu. C'est pas un problème, toutes ces choses sont bonnes en soi, elles sont saines, à moins qu'on leur donne trop de place et que ça devienne comme un dieu. Et des fois, les courses comme ça peut être quelque chose qui nous aveugle. Et on voit pas l'extérieur. Comme ce vase qui est plongé dans ces choses, dans ce sac, il est plus au contact de l'extérieur. D'accord? Et le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut pas juste tâcher ta vie, tâcher ton cœur. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un violent, le diable. Vous avez amené vos lunettes de protection? Allez. Oh, on aurait pu donner l'argent aux pauvres. Ça vous rappelle pas un texte? Une femme un jour qui est venue, elle est venue avec un vase d'albâtre. Lui, il a coûté 2 euros. Hein. Elle est venue avec un vase d'albâtre, avec un parfum de grand prix. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a cassé, elle a répandu le parfum sur Jésus. Et les disciples ont dit, oh, il aurait pu l'offrir, hein, l'argent aux pauvres, il y avait pour 300 deniers, c'est pas 2 euros, je peux vous le dire. Il dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais là, elle a fait quelque chose pour moi. Et je voudrais ce matin, non pas gaspiller l'argent, c'est pas ça, c'est juste que ça marque vos cœurs. Vous avez entendu le bruit que ça fait? N'oubliez jamais ce bruit. Ça, c'est ce que le diable veut faire dans vos vies. Il veut briser vos vies. Il veut briser vos cœurs. Il veut briser ton couple. Il veut briser ta famille. Et si tu te laisses pas refaçonner par le Seigneur, parce que lui, il est capable de faire des choses extraordinaires, Jésus. Est-ce que vous savez qu'avec l'argent avec lequel on a acheté Judas pour qu'il vende Jésus, cet argent a servi à racheter le champ du potier, là où on jetait toutes les brisures, toutes les cassures de vases et de pots. Et si ta vie est comme ce vase brisé, j'aimerais te dire que Jésus a payé le prix pour racheter ta vie brisée. Le champ des vases brisés a été racheté avec l'argent de Jésus. Jésus a payé pour racheter ta vie. D'accord? Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous toujours. Vous n'êtes pas, excusez-moi l'expression, j'allais dire foutu, mais c'est peut-être pas bien. Vous n'êtes pas à jeter et à oublier. Et vous pouvez pas ne plus servir à rien. Vous pouvez être refaçonné. Parce que le potier, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? De temps en temps, il allait dans le champ du potier. C'était un champ du potier. Il mettait tout ça. Et de temps en temps, il prenait des cassures. Il concassait tout ça et il se resservait de la poudre pour faire des nouveaux vases et pour les décorer et pour faire quelque chose de particulier. Je passe les détails, c'est assez technique, mais les brisures servaient à quelque chose. Et ta vie, peut-être, elle est comme ce vase, tout brisé. Et où est-ce que je veux en venir ce matin? C'est que ce vase, qu'est-ce qu'il peut faire? Si ta vie est peut-être même comme ça, brisée, si ton couple est brisé, si ton foyer, ta famille est brisée, si tes enfants, tout le monde a éclaté, tu sais même pas où ils sont. Je sais ce que ça peut être. Mes parents, mon père est pasteur et mes parents ont eu 2 enfants, donc moi et ma sœur et moi. Et ma sœur, à un moment, elle s'est rebellée envers le Seigneur. Elle est partie. Elle est partie. Elle a fait une vie vraiment gâchée. Elle a gâché sa vie. Elle qui avait entendu parler de Dieu depuis qu'elle était petite, à un moment, elle a dit non, je veux essayer sans Dieu. Ok, c'était son choix. Elle a essayé, elle s'est retrouvée mariée, divorcée, elle enchaînait les garçons, et le dernier garçon qu'elle a eu, il était dans l'alcool, il était violent envers elle, etc. Et elle était dans la misère, elle a passé presque 10 années dans la misère la plus totale. Elle qui croyait que ça serait mieux sans Dieu, elle a goûté que sans Dieu. C'est pas mieux, ça peut même être bien pire. Et elle qui pensait s'en sortir toute seule, elle a compris que si elle avait pas un sauveur et un soutien, elle serait perdue. Et sa vie a été de plus en plus concassée par le diable. Même à un moment, mes parents ne savaient plus où elle était. Ils essayaient de l'appeler. Gabrielle, ma sœur, avait dit à mes parents, je veux rentrer à la maison. Ils préparent tout, ils préparent la chambre, ils lui achètent des meubles, ils font tout parce qu'ils étaient tellement contents, elle revient à la maison. Ça faisait déjà 5 ou 6 ans qu'elle était partie. Et au moment où elle doit venir, elle disparaît pendant plusieurs jours. Elle devait annoncer à ce garçon qu'elle le quittait pour remettre sa vie droite. Et voilà qu'elle disparaît. Imaginez-vous dans la tête de parents, votre fille doit revenir et d'un coup elle disparaît. Vous vous dites qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Où est-ce qu'elle est? Ils appellent, ils demandent aux amis, tout le monde dit on ne sait pas où elle est. Peut-être que ta vie est comme ça, ton foyer est comme ça. Tes enfants, tu sais même pas où ils sont. Et tu dis pourtant, j'ai essayé de leur parler de Jésus, à un moment ils sont partis. Et Gabrielle a été comme ça, aujourd'hui elle est à Saint-Gaudens. Elle habitait à Toulon, elle avait la plage, elle avait les amis, elle avait les boîtes de nuit, elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle se retrouve à Saint-Gaudens quand même. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que c'était l'endroit qu'il lui fallait. pour se rapprocher de Jésus. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'elle est à la maison, qu'elle est pas à la maison, mais qu'elle est à Saint-Gaudens. Elle a été 4 mois à la maison pour se restaurer. Et après, elle a repris sa vie normale, un boulot, tout ça à Saint-Gaudens. Aujourd'hui, elle marche avec le Seigneur, elle est dans l'église. Et les derniers baptisés remercient le Seigneur pour le couple qu'elle forme avec un nouveau mari dans le Seigneur cette fois-ci. Et pour le témoignage qu'elle rend à chacun et l'encouragement qu'elle donne. Et c'est fou de voir comment Dieu peut restaurer des vies qui sont brisées comme cela. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des vases brisés, cassés? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut devenir quand on est comme ça? Je vous montre un autre vase. Il est mieux quand même, non? Lui, il est d'or. Sans blanc, hein, ok? Sinon, là, il faut que je fasse attention, on va venir me le voler. Ça, c'est un beau vase. Vous savez qui c'est? C'est pas moi. Je vais faire quelque chose. Parce que j'arrive. Ça, tiens. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Ok? Et ce que la Bible a dit, c'est que Dieu voudrait que tu puisses plonger en Jésus, être baptisé en Jésus, que tu puisses être plongé dans sa maison, dans sa famille. Et tes vases, ton vase l'a brisé, il veut le prendre et le mettre dedans. Vous inquiétez pas, ça va tenir. Je vais lui donner un coup de puce. Il était passé cassé. Quand tu es plongé en Jésus, quand tu es en Christ, ta vie est différente. Regardez les textes que j'ai notés. La preuve que ceux qui forment l'église de Jésus sont en Christ. Regardez ce texte. C'est Paul qui parle, il dit « J'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. » Il y a des églises en Christ, il y a des églises sans Christ. Qui parlent de Jésus, mais qui sont pas en Christ. Dieu veut pas une religion. Jésus n'a jamais demandé une religion. Il veut une église qui soit en lui. Ok? Et vous le sentirez. Quand vous allez dans une église où le Saint-Esprit travaille pas votre cœur, où on lit pas la parole, ou alors on dit des choses qui sont pas écrites, ou alors où on connaît pas Jésus, il y a pas cette ferveur, cette vie de Jésus en elle, c'est que Christ n'est pas, cette église n'est pas en Christ. Et du coup, Christ n'est pas en elle. Et Paul dit, j'étais inconnu de visage à ces églises qui sont en Christ, en Judée. Quand on est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Dans Psaume 91, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a un refuge. Quand on est en Christ, on est caché du danger. Vous savez que le diable, il viendra jamais, il pourra jamais atteindre Jésus. Jésus a triomphé du diable. Il est dit qu'à la croix, Jésus a triomphé du diable. On l'a chanté tout à l'heure. Nous aussi, on triomphe avec lui. Quand on est en Christ, on est caché du danger. Peut-être que j'étais brisé, mais quand je suis rentré en Christ, quand j'ai été mis en Christ, eh bien, je suis protégé. Quand je suis venu et que je suis venu en Christ, j'ai été gardé, protégé. Il y a un autre texte très encourageant, Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On est à l'abri du diable, mais aussi à l'abri de la condamnation. Parce que Dieu n'est pas content de tout ce qui se passe sur la terre. Quelqu'un disait, oui, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout le malheur. Mais si, il y a un Dieu et il y a du malheur parce qu'on veut pas de Dieu dans le monde. On veut pas de Jésus. C'est aussi simple que ça. Et Jésus aussi est pas content qu'il se passe tout ce malheur dans le monde. Et un jour, il va arrêter tout ça. Il patiente juste pour que des hommes comme vous et moi puissent demander pardon et être sauvés, épargnés de sa colère. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et si le vase, même s'il était brisé, taché, pécheur aussi, il est en Christ, il n'y a pas de condamnation. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Quand je suis en Christ, je triomphe avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis en Christ, on ne me voit plus moi. Vous me voyez là, brisé, c'était moi le vase. Vous me voyez? Pas du tout. Vous voyez que qui? Jésus. Et quand je suis en Christ, on ne voit plus mes erreurs, mes tâches, mes péchés, ce qu'on m'a fait, toutes mes blessures, toutes les choses que j'aurais pu approuver qui étaient mauvaises, tout mon péché. On ne voit plus, on voit Jésus. Et quand je suis présenté devant Dieu, pareil, je suis plus condamné, même si j'étais pécheur, même si je suis pécheur, je suis sauvé par grâce, pardonné, parce que je suis en Jésus. Je suis en Jésus, donc il voit Jésus, Dieu, et Jésus est pur. Jésus est d'or. Et moi, même si j'étais brisé, du moment que je suis en Christ, je suis épargné et je suis victorieux, je triomphe en Christ de toutes les choses qui viendraient m'accabler ou venir me tenter. Je suis abrité d'une disette spirituelle. Quand je suis en Christ, Dieu pourvoit tous mes besoins. Moi, je mérite rien, mais Jésus a mérité pour moi. Il a donné sa vie pour moi, et quand je suis venu en Christ, eh bien, alors je suis béni. Il est dit dans Éphésiens 1:3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. » Je suis béni en Christ. Même, allez, je vais le dire, on est sage. Qu'est-ce qu'il dit? Ben oui, c'est écrit. 1 Corinthiens 4:10, « Vous êtes sage en Christ. » Parce que si je suis sage sans Christ, alors c'est que c'est une mauvaise sagesse, c'est la folie du monde. La Bible dit que la sagesse du monde est une folie pour Dieu. Et que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Attends, Jérémie, tu y crois, toi, qu'une vierge a eu un enfant? C'est de la folie, ça. Et pourtant, c'est le plan sage de Dieu. Il a fait venir Jésus, non pas d'une union d'un homme et d'une femme, mais il a pris une jeune fille qui était zélée pour le Seigneur, qui lui a fait confiance, qui l'obéissait, qui lui avait donné déjà son cœur, et il l'a choisie pour porter le sauveur du monde, Marie. On parle peut-être pas souvent de Marie, parce que nous, on veut pas l'adorer, il n'y a pas de culte à lui apporter, elle n'est pas meilleure que les autres. Une grâce lui a été faite, elle méritait rien. Mais en tout cas, elle a quand même été zélée. Ça a été la servante du Seigneur, et là, c'est l'ange qui le dit. Et en tant que servante, elle a donné un bon exemple que je veux suivre aussi, et qu'on peut tous suivre. Oui, on est sage en Christ. Et puis, en Christ, je suis caché de ma honte. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le but de Dieu, c'est de nous préparer pour le jour de la rencontre de Dieu, en étant en Christ. Et quand je suis en Christ, Dieu me prépare. Et il fait une œuvre extraordinaire. Et de toutes ces pièces cassées, Dieu va sortir quelque chose de bon et de beau. Et je termine avec ce texte. Il dit « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Quand je suis en Christ, je suis aussi en Dieu puisque Jésus est Dieu. Je suis caché avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ma vie cachée en Dieu, en Christ, c'est une vie, oui, qui est rentrée brisée, mais qui va ressortir belle. Vous voulez que je vous le remonte, le vase? Non? Il est pas beau? Ben, vous avez tort, parce que regardez, je le ressors. Ah! Il y a un truc, oui. Le vase, il est tout beau. Il est tout d'or aussi. Il y avait dedans un nouveau vase. Un vase d'or lui aussi. Et si Dieu prend mon vase et mon vase brisé et m'accepte comme je suis pécheur perdu brisé et que je rentre en Christ comme ça, j'en ressors pas pareil. Hein. Au fur et à mesure de ma vie, pendant le temps que Dieu me donne, Dieu change ma vie et fait de moi une nouvelle créature. Je suis une nouvelle création, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et si t'étais brisé, taché, plus bon à rien, quand tu rentres en Christ, le Seigneur change ta vie. Il te laisse pas comme t'étais. Il te transforme. Et alors, le jour où Christ paraîtra dans la gloire, à la fin, le Seigneur aura fait son œuvre et tu seras prêt. Et quand tu ressortiras devant Dieu, oui, il te regardera, cette fois-ci, pas en Christ comme aujourd'hui, dans la foi, etc. Il te verra face à face et te dira, je te condamne pas. Puisque Jésus est un avocat, tu as cru en lui, et même, ça y est, tu es prêt. Je t'ai changé. Et aujourd'hui, la gloire de Jésus est aussi sur toi. Amen. Comme ce vase d'or, moi aussi je deviens d'or et je deviens beau. Amen. Ça c'est important. Être en Christ. Et je crois qu'il y a aussi autre chose quand on est en Christ. C'est qu'on est caché de notre honte. On est caché du danger. On devient transformé, changé. Et en même temps, on se cache derrière son autorité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. T'es pécheur, t'es un bon à rien, le diable il nous accuse des fois. Hein. Tu te souviens pas d'où tu sors? Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui a dit que j'étais devenu pur. C'est pas moi qui me sens meilleur maintenant aujourd'hui, c'est pas moi qui peux dire les choses, c'est Jésus qui le dit. Et quand aussi il y a quelque chose qu'on dit à un frère, tu sais, tu devrais pas faire comme ça, ou à une sœur, tu devrais pas faire comme ça. Oh, t'es pas meilleur que moi. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Je viens pas te dire ce que je pense moi. Quand on parle en tant que pasteur, c'est pas qu'on est meilleur que vous. C'est juste que le Seigneur a une autorité qu'il nous demande de mettre en pratique. Et lorsqu'on parle, c'est pas pour vous juger ou se comparer. On a besoin aussi de vos prières. Mais c'est pour vous dire, oui, mais c'est pas moi qui vous le dis ce matin. C'est Jésus. Et si ce matin je me permets de dire qu'on est pécheur et qu'on va aller en enfer, si jamais on ne se repent pas, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus. Et c'est pas que je pointe le doigt vers vous, parce que quand on pointe un doigt vers les autres, il y en a trois vers nous. Vous connaissez ça? Quand on juge les autres, finalement, nous aussi, on est condamnés, on n'est pas meilleurs. Mais si je dis ces choses, c'est parce que moi-même, j'ai été au bénéfice de sa grâce et je me cache en Christ. Et si ce matin, je nous parle, je veux pas que ce soit Jérémy Gadrois qui parle. Je veux que ce soit Jésus qui vous parle et qui nous parle. Et peut-être que ta vie est un vase brisé. Et tu sais pas comment faire. Et tu es tellement fier de toi que tu veux pas l'avouer que tu as besoin de Jésus. Je vais m'en sortir tout seul. Essaye encore. Tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. Et j'espère qu'un jour, tu auras l'occasion de réaliser que il faut plus en perdre plus. Il faut juste dire, Seigneur, je crois en toi. Comment être en Christ maintenant? Parce que j'ai dit être en Christ, mais comment je peux rentrer en Christ? Comment je peux être plongé en lui? Simple texte. Il est dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été plongés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni plus d'esclave, ni de libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Ce texte, il nous dit quoi? Que si je veux être en Jésus-Christ, la première chose à faire, c'est à croire. Par la foi, au moment où je crois, je suis baptisé en Jésus, je suis plongé en Jésus-Christ. C'est ça que dit ce texte. Je crois la bonne nouvelle. J'aimerais te rappeler, Jésus-Christ est mort à la croix pour effacer toutes les tâches, pour faire de toi une nouvelle créature, pas un meilleur toi, un nouveau toi, un nouveau départ. Tu renonces à ta vie comme Stéphanie l'a chanté tout à l'heure et tu rentres dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Tu te repens. Parce que croire, c'est bien, mais le diable, il croit, mais il s'est pas repenti, hein. Donc croire vraiment, avoir la foi, c'est quoi? C'est croire au point d'agir en fonction. Je crois que Jésus a dû mourir à cause de mes péchés. Je demande pardon, je me repens, je change de vie, j'abandonne mon ancienne vie et je m'engage. Engage-toi. Engage-toi à suivre ce que Jésus dit, à suivre ses conseils. Cherche dans la Bible, qu'est-ce qu'il a prévu pour ma vie? Qu'est-ce qu'il me conseille? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Et c'est pas parce que j'ai 20 ans de conversion, 30 ans, 50 ans, 60 ans que j'ai plus besoin de la Bible. Tous les jours, j'ai besoin de la Bible pour savoir ce que le Seigneur a prévu pour moi, pour grandir, pour comprendre mieux. Parce qu'à chaque fois qu'on relit un texte, on comprend des choses nouvelles. La Bible n'est pas un roman, on le lit une fois et c'est fini. La Bible, c'est une parole vivante qui se révèle par Dieu, par le Saint-Esprit, dans mon cœur, lorsque je lui ouvre mon cœur et que j'accepte de regarder cette parole avec humilité, avec honnêteté et puis avec soif. Jésus dira, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Demeurer en Christ, c'est garder sa parole. Et puis, pour être en Christ, il faut avoir une vie de prière. Comment on prie, pasteur? Comment on prie? Tu sais parler. Tu sais prier. Et même des fois, on n'a pas les mots. La Bible dit, Dieu entend la voix de nos larmes. Peut-être que tu as pleuré pour ta vie. Tu as pleuré pour ton foyer. Tu as pleuré pour tes enfants. T'as même pas su quoi dire avec les mots tellement ton cœur était dans la tristesse. Jésus a entendu. Et c'est comme une prière, une supplication qui est montée vers le Seigneur. Il y a des gens, ils ne connaissaient pas Dieu, ils ont déjà prié avant. Il y a un jeune qui racontait son témoignage à Luchon, là, il m'a dit, Jérémy, je me suis converti, j'étais dans la rue. Et j'étais en train de dire, Dieu, si t'existes, je te connais pas, mais si t'existes, vraiment, si c'est vrai tout ce qu'on raconte là, s'il te plaît. Donne-moi de l'amour, parce que si j'ai de l'amour, j'aurai tout. Il avait compris que c'était pas l'argent, c'était pas une belle fille, que c'était pas tout ça, c'était juste de l'amour. Et au moment où il dit ça sur son banc, il y a des jeunes qui passent, des jeunes chrétiens qui lui disent « Jésus t'aime ». Comment il sait celui-là? Jésus t'aime. Jésus est mort à la croix pour tes péchés, tellement il t'aimait, il a donné sa vie pour toi. Il t'a vu dans ta misère et il a donné sa vie pour toi. Et lui, il est là, il sait pas quoi dire. Il l'invite chez eux, il prie avec lui et sa vie a commencé à changer. Aujourd'hui, il vient d'avoir un petit garçon qu'on a présenté il y a pas longtemps, ou qu'on va présenter, il n'est pas encore présenté. Il s'appelle Siméon, il a quelques jours, quelques semaines. Et ils fondent un foyer, ils aiment le Seigneur. et leur vie, sa vie a changé. Lui qui voulait mourir, qui voulait se suicider, aujourd'hui sa vie a changé. Être en Christ, c'est être une nouvelle création. Vous savez, on prend notre vie brisée, on la met en Jésus et elle ressort belle. Toute neuve, toute utile. Et là-dedans, on peut mettre des belles fleurs. Vous êtes d'accord avec moi ? On prie ? Merci Seigneur. Ce matin, on a été rassemblés autour de ta parole. Et quand on se rassemble autour de ta parole, autour de ton nom, Jésus, tu dis que tu es au milieu de nous. Je ne connais pas la vie des uns des autres, je ne connais pas le passé, je ne connais pas les projets. Mais je sais une chose, c'est que toi, tu sais toutes choses. Il n'y a aucun homme qui peut dire « je suis venu par hasard ». C'est toi qui fais battre le cœur d'un bébé dans le ventre d'une maman et qui fait que la vie naît dedans. On fait notre part et on ne comprend plus après comment ça se fait. Parce que c'est toi qui l'as décidé et c'est toi qui le fais. Et si quelqu'un est là ce matin, tu l'as voulu sur cette terre, tu veux le bénir aussi ce matin et tu vas lui accorder ta grâce, Seigneur, je le crois. Merci Seigneur, tu vois ceux à qui ça a pu parler, cette affaire de vie brisée, de vase brisé. Je te prie vraiment de les soutenir, de leur parler, de leur faire du bien et de les pousser aussi à céder devant toi, à fléchir le genou, à te demander grâce, à croire, recevoir cette bonne nouvelle de la croix, à se repentir et puis aussi à s'engager avec toi parce que c'est ainsi qu'une vie devient nouvelle en toi. Tu es prêt à restaurer ce qui est brisé, à restaurer ce qui est tordu et tortué. Tu es prêt à donner un avenir à celui qui n'en avait plus. Tu es prêt à pardonner le passé à celui qui a gâché sa vie. Tu es prêt, Seigneur, à donner le pardon à celui qui est dans l'amertume et la colère, qui a un esprit de vengeance tellement il a souffert. Tu es prêt à donner goût à la vie à celui qui voudrait la perdre et qui se demande à quoi sert sa vie. Seigneur, tu es là ce matin par ton esprit et tu touches nos cœurs, je t'en prie. Merci encore de sauver ceux qui se sont sentis concernés, qui ont besoin de ta grâce, qu'ils te connaissent depuis longtemps ou bien qu'ils te découvrent ce matin. Tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix et je te prie de bénir chacun. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Amen.